sonate en mi mineur. On est ici dans le genre du double concerto, à savoir deux instruments solistes qui dialoguent avec un orchestre. Et vous l'entendez, le soliste Pierre Génisson est en train de travailler quelques traits juste avant d'entrer en scène pour s'échauffer. Une œuvre magnifique qui est très mélodieuse. C'est le dernier Bruch. Bruch a vécu très très longtemps, jusqu'à l'âge de 80 ans à peu près. Il est mort en 1920 et il a composé cette œuvre en 1911. Il passait à l'époque pour un compositeur un peu désuet parce que cette musique en 1911 est ancrée dans le romantisme tardif. Eh bien, songez qu'en 1911, il y avait la création de Petrouchka de Stravinsky à Paris et qu'un an après, celle du Pierrot lunaire de Schoenberg. On est dans des univers, mais qui sont complètement antagonistes. Voilà. Donc ce double concerto est une œuvre ancrée dans le romantisme et c'est très beau, c'est très mélodieux avec des très beaux solos qui sont distribués en alternance à l'alto et à la clarinette. La couleur d'ensemble est très chaude, mélodieuse, comme je vous le disais. Et puis, il y a la clarinette aussi. Et là, je pense qu'on aura de la chance, en tout cas avec les deux solistes qu'on entendra ce soir, à savoir Pierre Génisson et Antoine Tamesti, d'avoir deux musiciens qui vont essayer vraiment de conférer toute leur expressivité aux phrases musicales, toute la mélancolie de cette œuvre, avec deux premiers mouvements qui sont dans des tempi plutôt modérés. On a d'ailleurs reproché cela à Max Bruch, on a dit que la différence entre les deux, les contrastes étaient trop peu marqués. Mais c'est la mélodie ici qui va s'exprimer, la mélancolie. Et puis finalement, il y aura le final où alors là, il y a véritablement une rupture de ton, de climat, les choses s'emballent, ça devient beaucoup plus animé, beaucoup plus vif, avec des traits virtuoses. Une musique qui peut rappeler un tout petit peu celle de Mendelssohn, de Louis Spohr, enfin tous ces compositeurs qui écrivaient dans une veine extrêmement virtuose. Alors voilà nos deux musiciens qui sont côte à côte dans les coulisses. Antoine Tamesti à l'alto, qui d'ailleurs joue sur un splendide Stradivarius, un alto Stradivarius, c'est assez rare. Et Pierre Génisson, peut-être que je pourrais lui poser la question tout à l'heure sur quel type de clarinette il joue. C'est l'orchestre de chambre de Verbier qui s'accorde, les cordes en particulier, aussi les bois naturellement. Et les deux solistes vont entrer sur scène, on va les entendre, voilà. Gabor Takacs-Nagy, je viens de boire un petit verre d'eau, hein, juste une petite goutte là pour s'hydrater avant d'entrer sur scène, quelques accolades. Et c'est l'entrée maintenant sur le plateau de la salle des combats. Ce concerto, donc un double concerto pour clarinette, alto et orchestre de Max Bruch, opus 88, composé dans les années 1910, un concerto en trois mouvements. Qu'on va découvrir, en tout cas que moi je découvre pour cette soirée. Voilà, les musiciens qui sont tous sourires. Alors je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre de Max Bruch. Thank you.
Thank you.
Deux magnifiques solistes en direct de Verbier. C'était Pierre Génisson à la clarinette, Antoine Tamesti à l'alto, accompagné par le chef hongrois Gábor Prekácsnádj et l'orchestre de chambre du Verbier Festival. Ils jouaient pour nous et avec beaucoup de musicalité, beaucoup de sensibilité. le concerto pour clarinette, alto et orchestre en mi mineur, opus 88 de Max Bruch. Des applaudissements bien mérités pour ces deux artistes, ces deux solistes, avec des échanges de regards sans cesse. On pouvait voir Pierre Génisson qui regardait Antoine Tamesti, car l'écriture de ce concerto fait valoir les deux solistes à part égale. Ils sont tout le temps entremêlés, les thèmes sont tout le temps entremêlés, il y a des réparties. C'est vraiment un double concerto avec un accompagnement d'orchestre de chambre et une musique peu connue, très belle ma foi. Enfin, je dois dire que j'ai été touché par la mélancolie de l'œuvre dans les deux premiers mouvements et puis un final qui est plus enlevé. Tout à l'heure, je parlais de Mendelssohn et Louis Spohr. Pour le final, peut-être, oui, mais à vrai dire, cette musique se rapproche davantage d'un Brahms tardif ou encore d'un Antonin Dvorak. Un concerto qui a été composé en 1911. Alors on va voir si éventuellement il y aura un bis par ces musiciens, très applaudis, je le dis encore une fois, à la salle des Combins. Un bis après ce magnifique concerto et tout cet effort musical. Et oui, un bis, voilà. Vous avez peut-être reconnu cette musique, il s'agissait tout simplement des dernières pages du mouvement final du double concerto pour clarinette alto et orchestre de Max Bruch, les dernières pages de l'Allegro Molto final. C'est un concerto en trois mouvements, Andante con moto au début, Allegro moderato pour le deuxième mouvement. Et je vous le disais, des mouvements qui sont assez proches hein, de tempo, de caractère, et pour finir, l'Allegro molto. Voilà. On arrive à la fin de cette première partie de concert et je vais donner congé momentanément à nos collègues de l'Union européenne de radio-télévision, à savoir la Roumanie ce soir. Donc, nous sommes à l'entracte ici et je suis en discussion avec les musiciens parce que ce serait un plaisir de pouvoir les avoir en interview maintenant. Voilà. Alors, j'ai Pierre Génisson et je crois qu'Antoine Tamesti va arriver. Voilà. Bravo.
Ben, merci à vous. On a eu beaucoup de plaisir avec Antoine de jouer pour la première fois ensemble à Verbier.
C'est la première fois que vous jouez ensemble d'une manière générale ou vous vous connaissiez
Première fois à Verbier, première fois ensemble, première fois pour Antoine. Enfin, c'était une grande première pour beaucoup d'aspects.
Alors, on a vu, en tout cas, dans votre manière de jouer, en tout cas, vous, les échanges de regards avec Antoine, cette façon d'aller chercher le son et aussi pour le partage, pour les phrasés. J'imagine que ça, c'est très important.
Oui, bah, c'est une pièce en fait, où les deux instruments ne font qu'un et en fait, il faut arriver à mêler, rentrer en fusion avec l'alto, qui est une tessiture qui est extrêmement similaire de la clarinette. Et voilà, et puis c'est vrai que ces rencontres ne se font pas tous les jours. Là, on a la chance de se faire dans le plus bel endroit du monde. Et c'est que du bonheur.
En tout cas, on vous sent ému, hein, on vous sent encore dans la musique, parce que j'imagine, trouver ces mots après cette interprétation, c'est pas évident.
Il y a aussi le fait que, en fait, jouer en altitude, c'est extrêmement compliqué. Et je suis encore essoufflé du concert, en fait, voilà, d'accord, tout simplement.
Okay.
Voilà.
Vous sentez la différence, là, on est à 1500 mètres.
1500 mètres, on le sent, surtout qu'en plus, bon, c'est des phrases, des lignes très très longues, et ben oui, je le sens. Oui, c'est quelque chose, même de parler, c'est quelque chose de difficile.
Okay. Bon, moi je peux vous dire qu'en tout cas, en vous écoutant, on n'a senti rien du tout. C'était d'une grande fluidité, avec vraiment des très belles courbes musicales. Alors, ce concerto, moi je ne le connaissais pas. C'est une surprise. Pourquoi est-ce qu'on le joue si peu?
Parce que ce sont deux instruments, si je puis dire, mineurs dans la famille des instruments solistes. Et que c'est protéiforme. Et puis, c'est vrai que deux instruments qui ne sont pas très puissants, il faut quand même un orchestre qui soit très à l'écoute. L'orchestre a été brillant ce soir pour ça. Et on les remercie. Et puis d'abord, Gabor a été merveilleux de nous accompagner. C'était comme de la musique de chambre et c'était que du bonheur.
C'est ce que j'ai ressenti en tout cas à l'écoute. Ouais. Vous avez eu assez peu de temps pour répéter. Moi, je vous ai vu hier à la salle de l'école de la combat. Voilà, donc c'est assez peu de temps pour faire tout ça.
Il y a eu très peu de temps en fait. On a eu une heure de répétition hier, une heure ce matin. Et là, c'est le concert, vous voyez. Donc c'est effectivement très court. On était très près, et puis enfin, il y a que des grands professionnels ici, donc c'est le must du must. On ne pourrait pas faire meilleures conditions pour jouer cette musique.
Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre clarinette? Moi, j'étais curieux de savoir quel modèle de clarinette c'était.
Je joue une clarinette Buffet Crampon, modèle totalement basique, si je puis dire. C'est vraiment un son, c'est un modèle qui s'appelle Tradition, donc c'est vraiment le son en fait des années 50, en fait, qu'on a aimé. Très rond, très chaud. On ne cherche pas un volume extrêmement développé, mais par contre, dans la rondeur, dans l'intimité, c'est l'instrument par excellence. Et voilà, donc je joue ce modèle pour ce concert.
En tout cas, ça sonne magnifiquement et on se réjouit de vous entendre vendredi à 11h.
Ben, exactement, qui sont des amis proches.
Avec le Quatuor Eben.
Oui, et que j'aime beaucoup. J'ai la chance de faire le quintet de Mozart dans une version un peu particulière pour clarinette de basset cette fois.
Et, c'est quoi la clarinette de basset?
C'est la clarinette de Mozart. C'est la clarinette que Mozart a connue parce que Anton Stadler le jouait et pour lequel il a écrit son concerto de Mozart. Voilà, donc son concerto.
En la majeure, c'est ça.
Et deux ans avant, il écrivait son quintet, Köchel 581, qu'on aura la chance de jouer. Donc c'est une clarinette qui est très intimiste, qui a des couleurs absolument bouleversantes d'intériorité et qui a la capacité de descendre une tierce en dessous, une tierce mineure en dessous que la clarinette en là. Voilà. Donc on a un ambitus encore plus développé.
Bon, alors en tout cas, moi je suis ravi de vous avoir entendu live parce que j'avais entendu les disques, j'avais entendu des enregistrements, aussi d'autres concerts. Et là, on est vraiment heureux de vous entendre à Verbier et je pense que vraiment vous êtes super bien débrouillé.
Écoutez, moi c'est un rêve de jouer à Verbier, c'est pour tout musicien d'ailleurs, et puis c'est vrai que j'étais à la fois très excité et j'avais vraiment le trac de cette première échéance. Et voilà, je suis très heureux de la manière dont ça s'est passé.
Voilà. D'accord, très bien. Alors, on va vous laisser vous reposer, peut-être discuter avec moi, parce qu'il y a plein de gens qui veulent vous féliciter.
Peut-être aller vous chercher Antoine.
Oui.
Bravo. C'est la première fois que je vous jouais ensemble.
C'est la première fois qu'on joue ensemble avec Pierre. On s'était déjà rencontrés, mais croisés à peine une fois. Et donc, c'est très excitant. Et en plus, c'était ma première fois pour cette pièce, ce double concerto de Bruch. Et donc, je trouve que c'est assez simpliste de dire ça, mais il y a cette excitation de la première fois, la rencontre avec l'autre soliste, la rencontre avec la pièce. J'ai le cœur qui bat très vite, là.
Je sens ça. C'est d'ailleurs l'alto qui énonce le thème au tout début du concerto.
Il y a quelque chose de complètement... Cigane presque, avec ce début un peu emporté. Ouais. Puis on ne s'attend pas à cette fin complètement légère, brillante, virtuose. On a l'impression qu'on va avoir une pièce d'opéra dramatique. Mais c'est ça peut-être le génie de Max Bruch, c'est d'être très varié dans ses thèmes.
Ouais. Et alors, justement, c'est très mélodieux, c'est très chaud. Et puis surtout, les deux instruments sont constamment entremêlés. C'est presque une symphonie concertante.
Oui, tout à fait. Après, on le savait, Max Bruch le savait, puisqu'il a écrit 8 pièces pour alto, clarinette et piano, qui sont magnifiques, avec des mélodies plus belles les unes que les autres. Et je pense qu'il a su marier vraiment les deux instruments. Il a su, quand les mettre en solistes qui dialoguent et quand les mettre en deux voix qui fusionnent un petit peu.
J'aimerais qu'on revienne un peu sur le concert d'hier soir. Vous avez un planning démentiel, vous êtes ici, vous enseignez dans des masterclasses, vous donnez des concerts. Hier soir, on a eu la chance de vous entendre dans la sonate pour alto et piano de Shostakovich, l'une de ses dernières, voire la dernière œuvre de Shostakovich.
C'est sa dernière œuvre. Il est mort littéralement en finissant la dernière note, en écrivant la dernière note. Il a été amené à l'hôpital. Je crois qu'il est resté en vie quelques jours, mais c'est vraiment une œuvre funeste. D'ailleurs, on a cette marche funèbre qui est tirée de la sonate au clair de lune de Beethoven, mais il la transforme vraiment en chose funèbre. Et en plus, il cite ses propres œuvres, mais encore plus que d'habitude. Ouais. On a même découvert, avec Evgeny Kissin, dans le troisième mouvement, presque une citation du début de chacune des symphonies. Donc il dit quelque chose sur sa vie, dans le premier mouvement, qui est censé être une sorte de petite nouvelle, il le dit lui-même, mais il raconte quelque chose de clairement politique. On entend presque la police toquer à la porte à la fin du premier mouvement.
Ah oui, d'accord, et ok, ouais, pour peur, venir l'appeler.
Voilà, la peur dans la voix.
Il a toujours eu peur de ça.
Voilà, tout à fait. Donc, on sent l'angoisse de la vie à cette époque-là, de la vie de la société, de la vie politique, de la vie du peuple. Et dans le deuxième mouvement, un sarcasme, une ironie, un humour, mais pincant, pincé, je ne sais pas comment exprimer, mais vraiment, c'est quelque chose de très,
très glaçant.
Froid, c'est glaçant, c'est très glaçant. Dur, et puis ça se finit sans compromis, et on enchaîne directement avec ce très long dernier mouvement, qui est vraiment une lente mort.
Avec, enfin je vais le dire aux auditeurs, on n'a pas la musique à l'oreille, mais on entend constamment effectivement un thème qui est issu du premier mouvement, la fameuse sonate Clair de lune de Beethoven. De tam, pa, pam, tam, 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 puis les triolets derrière.
Voilà, exactement. Il a vraiment fait ça, il avait même apparemment pensé à un titre, Adagio à la mémoire d'un grand compositeur. Il l'a dit à Fyodor Drujinin, pour qui il a écrit cette sonate. Et bon, il y a vraiment en même temps une telle beauté là-dedans, dans cet hommage, et qui l'amène vraiment, alors que la pièce est quand même très sombre, très triste, très...
Ah, c'est très austère quand même.
Très austère. Elle se finit avec une pointe d'espoir. On finit en do majeur.
Oui.
C'est pas très très long, mais on finit quand même dans ce do majeur qui donne une douceur, et la douceur de ce rythme de Beethoven, elle est déjà là en fait dès le début.
Encore une question, je vais vous laisser ensuite filer parce qu'il y a beaucoup. On est dans les coulisses ici, il y a des musiciens, on vient
c'est
vous applaudir.
C'est super l'ambiance.
Ah, c'est sympa. Vous aimez l'ambiance à Verbier?
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de mélange entre l'orchestre, le public, les solistes. Les gens qui viennent juste en vacances ici, et on parle avec les gens dans la rue. C'est assez extraordinaire. Quand on reste quelques jours, j'ai eu la chance de rester 10 jours cette fois-ci. Vraiment, il y a un vrai rapport avec toute la ville de Verbier qui vibre.
Vous allez faire des randonnées aussi, hein? Je crois que vous êtes assez sportif.
J'ai vraiment essayé. Alors parfois, c'était vraiment juste une heure ou deux, mais pour être sûr de l'avoir fait, parce que je ne pouvais pas rater ça. Les montagnes sont tellement belles, tellement belles.
Vous êtes un montagnard vous-même, ou vous aimez la montagne?
Alors j'ai grandi avec des parents qui m'ont amené dans les Alpes-Maritimes et on allait faire des marches très très souvent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui ne me surprend pas, j'ai toujours envie de marcher. Même quand je suis en tournée, j'essaye de faire mes 10 000 pas ou plus parce que j'aime vraiment beaucoup marcher, ça me fait du bien.
Encore un dernier mot sur votre alto, un Stradivarius. Il y en a très peu d'alto de Stradivarius. Et violons, évidemment. Mais...
A priori, contrairement aux 500-600 violons qu'il reste, il reste que 11 altos, on arrive à les compter. Celui-là, c'est le premier de 1672, évidemment très rare, mais en même temps l'image d'un jeune luthier qui fait seul, parce qu'à ce moment-là, il n'a probablement pas beaucoup d'apprentis, qui fait seul ce qu'il veut, ce qu'il a décidé de faire. Et il fait, avec cet alto, un instrument très original, avec une tessiture, une couleur particulière. Mm-hmm. Et je suis très heureux de le jouer depuis 17 ans, grâce à une fondation suisse, Habis Reutinger, Et il faut le dire parce que sinon on ne serait pas capable de jouer des instruments comme ça et de vivre avec eux pendant si longtemps.
D'ailleurs, j'ai aussi eu la chance de parler avec Anastasia Kobekina, qui elle a un violoncelle Stradivarius de la même fondation.
Et on avait le quatuor ébène qui avait deux instruments de la même fondation. Donc c'est quatre des six instruments, des six Stradivarius de cette fondation qui étaient à Verbier cette semaine.
Magnifique. Alors merci beaucoup Antoine. Vous rentrez quand ?
Eh bien, je repars demain, mais pour les États-Unis. Donc,
ah bon ?
Le festival de Tanglewood. Donc, c'est une longue journée qui m'attend avec de la voiture, de l'avion, de la voiture. Et puis après, un bon dodo.
D'accord, ok. Bon, bah, alors, on vous souhaite tout le mieux à Tanglewood. Mais bon, l'ambiance sera différente.
Oui, tout à fait. Mais je retrouve Leonidas Kabakos, avec lequel j'ai joué ici à Verbier. Mais je m'apprête à jouer avec Emmanuel Axe et Yo-Yo Ma. Donc, je me réjouis énormément.
Merci beaucoup Antoine, en tout cas, d'être passé pour me parler et pour partager vos impressions.
Merci Julian.
On va se quitter avec du Bach, en fait. Ce sera la sonate pour viol de gambe et clavecin numéro 3 en sol mineur que vous avez enregistré.
Masato Suzuki, alors.
C'est ça.
Voilà.
C'est une œuvre magnifique.
Magnifique. Merci à vous de la passer.
À bientôt. Au revoir. Thank you. Le premier mouvement d'une sonate pour viol de gambe et clavecin de Johann Sebastian Bach, la troisième sonate, c'était interprété par Antoine Tamesti à l'alto et Masato Suzuki, fils du chef Masaki Suzuki, au clavecin. Donc un arrangement de cette sonate pour viol de gambe pour l'alto et le clavecin. Alors il nous reste encore une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes avant la deuxième partie du concert, la deuxième symphonie de Schumann qui sera dirigée par Gábor Takács-Nagy à la tête de l'orchestre de chambre du Verbier Festival. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier à la production musicale Martin Gers, à la prise de son Hervé Mermillot, à la régie à Lausanne Marie-Claude Cudry qui sera bientôt rejointe par Gilles Ozaman. Voilà toute l'équipe d'Espace 2 à votre service ce soir, et c'est un plaisir d'être en direct de Verbier à nouveau. On a eu 3 concerts au début en direct qui étaient animés par mon collègue Francesco Biamonte, et là pour ce soir et les prochains soirs nous serons avec vous pour des beaux programmes. Demain soir, le pianiste russe Alexander Malofeev en direct de l'église de Verbier. Mais allez, encore un peu de musique, ce sera le trio des quilles de Mozart avec Martin Frost à la clarinette, Antoine Tamesti à l'alto et Leif Ove Andsnes au piano.
Thank you.
On quitte cette musique de Mozart, le trio des quilles, le premier mouvement ici, un extrait interprété par Martin Frost à la clarinette, Antoine Tamesti à l'alto et Leif Ove Hansnes au piano. Voilà, on arrive à la fin de cet entracte et on va retrouver nos partenaires de l'Union européenne de radio-télévision. Une deuxième partie de concert avec la deuxième symphonie de Schumann dans le cadre d'un cycle Schumann qu'a entamé ici Gábor Takács-Nagy à la tête de son orchestre, toujours la même orchestre, le Verbier Festival Chamber Orchestra. Je suis dans les coulisses de la salle des combats, des musiciens qui s'apprêtent à entrer sur scène avec toujours ces derniers accords qui sont importants. Essayer de trouver le son, essayer d'être juste. Voilà, on lance un peu artificiellement des applaudissements pour que les musiciens entrent en scène. Et ça sera donc la deuxième symphonie de Schumann, qui est une œuvre magnifique. Alors, on sait qu'à l'époque où Schumann a entamé la composition de cette œuvre, il était en proie à une dépression. Bon, avec Schumann, c'est pas très surprenant, il avait régulièrement des dépressions. Mais il a commencé cette symphonie à la fin de l'année 1845 et il a repris des forces au fur et à mesure de l'écriture. On possède une lettre de Schumann au chef d'orchestre Georg Otten qui nous renseigne sur la genèse de l'œuvre. J'ai composé cette symphonie en décembre 1845 alors que j'étais encore à moitié malade, nous dit Schumann. Il me semble qu'on doit s'en rendre compte à l'audition. C'est seulement dans le dernier mouvement que je me sentis renaître. Et de fait, une fois l'œuvre achevée, je me suis senti mieux, quoiqu'elle me rappelle surtout une époque difficile. Votre sympathie me prouve malgré tout que des accents aussi douloureux peuvent éveiller l'intérêt. Et j'ai été particulièrement heureux que mon mélancolique basson de l'adagio, que j'ai placé là avec une particulière tendresse, ne vous ait pas laissé indifférent. Robert Schumann, donc, au chef Georg Otten, une lettre datée du 24 avril 1849, oui, puisqu'il revenait dans cette lettre sur la genèse de cette symphonie qui a été composée entre 1845 et 1846. Alors, l'œuvre est superbe, elle commence par une introduction avec un thème qui est énoncé au cor, un thème qu'on va entendre plusieurs fois au cours de l'œuvre. Il y aura ensuite un mouvement rapide, c'est assez conquérant comme musique, hein. C'est pas une musique mélancolique abattue. Ensuite il y a un scherzo virtuose et c'est l'adagio espressivo qui est le cœur émotionnel de l'œuvre. Ça c'est très très beau, avec l'une des plus belles mélodies sorties de la plume de Schumann. L'adagio espressivo, il y aura encore un final, voici cette deuxième symphonie dirigée par Gábor Takács Nagy à Verbier.